Et tentez un peu de se dire qu'est-ce que l'ingénierie des flux a à dire là-dessus et qu'est-ce que ça peut nous apprendre. Alors, je ne vais pas parler de logiciel. En plus, si on dit changer de logiciel, quand nous, on va en établissement, souvent la direction elle nous dit « Oh, on a un logiciel de rendez-vous pour les HDJ. » Je suis d'accord, montrez-moi. Et quand on va dans le bureau de l'IDE de programmation, il ressemble à ça. C'est un océan de bannettes. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est très sophistiqué. Extrêmement sophistiqué. Et le summum de la sophistication, ce que vous avez à droite, c'est la partie pilotage. C'est-à-dire qu'il y a toutes les étapes de programmation, puis arrive le jour J, et puis là, il faut réaliser l'activité qu'on a mis tant de temps à programmer avec ces multiples bannettes. Et la feuille là, qu'il faut voir, c'est la feuille qui est au milieu. Celle-là, c'est une mine d'or, elle a l'air de rien. Et en fait, elle a toutes les informations du patient, avec plein de choses autour, des stabilos, de plein de couleurs. Chaque couleur a un sens. Je pense qu'il y a un budget surligneur dans les hôpitaux qui est absolument incroyable. Il y a des tampons, vous voyez, il y a un tampon là-haut pour dire « OK, sorti ». Puis il y a plein d'hiéroglyphes dont tout le monde connaît la signification et qui permet d'annoter le patient au fur et à mesure. Et donc chaque soignant, grâce à ça, à chaque fois qu'il repasse devant le papier, reconstitue une sorte de planning pour savoir où il en est et qui doit prendre en charge. Grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, la digitalisation, elle est encore beaucoup papier. C'est-à-dire que le médecin a fait sa demande de programmation dans un formulaire du DPI, que l'IDE de programmation a imprimé, et à partir de là, c'est un circuit imprimé. Moi, mon métier, moi, c'est l'ingénierie des flux, au départ. Et les flux, il y en a partout. Et donc, j'étais amenée à travailler dans plein de domaines différents. Vous pouvez avoir des flux en agroalimentaire, en pharmacie, à l'hôpital. Et ce qui m'intéresse, j'arrive dans un nouveau domaine, c'est de regarder la sémantique. Parce que chaque domaine a un peu son propre vocabulaire. Alors, à l'hôpital, vous avez une langue étrangère. Je crois que j'ai mis 4 ans à comprendre la langue de l'hôpital. Les premières réunions qu'on a fait avec Renato, je devais capter 10% de ce qui se passait à peu près. Mais la sémantique, ça dit toujours beaucoup de choses. Et si on arrive à bien définir ce qu'on fait, en général, c'est à peu près clair. Et un concept qu'on ne sait pas définir, c'est qu'a priori, le truc derrière, ça ne marche pas très bien. Parmi tous les termes que je ne comprenais pas quand je suis arrivée à l'hôpital, il y avait celui-là, programmé. Moi, ça faisait référence à rien pour moi. On parlait de programmation tout le temps. Et c'est un terme, je pense, qu'on a dû utiliser 200 ou 300 fois depuis ce matin. Mais en ingénierie des connaissances, on appelle ça le schéma interprétatif, c'est-à-dire la capacité de connaissance qu'on se construit individuellement par notre expérience. Dans mon schéma interprétatif à moi d'ingénieur, ça ne voulait rien dire. Je n'avais pas d'image. De quoi il parle ? Puis il y a des gens pour faire ça. Il y a des gens qui font ça toute la journée. Ça ne me parlait pas jusqu'à ce que j'aille dans les services. En fait, ce concept, il n'existe pas ailleurs qu'à l'hôpital. Dans tous les autres systèmes de production, et donc dans ce qu'on appelle le génie industriel, c'est-à-dire l'ingénieur des flux, il n'existe pas. On a d'autres termes. On a deux termes principaux. Un flux, soit ça se planifie, soit ça se pilote. Plus exactement, on fait les deux. C'est-à-dire que ça se planifie, tout ce qu'on fait en amont pour faire en sorte que ça se passe bien, et après, le jour J, ça se pilote. C'est-à-dire qu'on le gère au moment de la réalisation pour s'assurer que ça se réalise comme on l'avait planifié. Mais le terme de programmation ne veut rien dire. Quand on commence à utiliser ces termes-là, on voit un peu mieux ce qu'on est en train de faire. Puis il y a des sous-termes un peu assez intéressants. Avant de planifier, il faut dimensionner. On a parlé de règle 3, tout ça. Ce qui est intéressant dans les projets, on fait des projets bâtimentaires, on fait des projets de dimensionnement, les gens ils disent aussi programmer. En fait, programmer, ça veut tout dire. Et on ne sait pas si on est en train de gérer le quotidien, de prévoir des ressources, où est-ce qu'on en est. Et en fait, l'ordre, c'est je dimensionne, je me donne les moyens, je planifie, j'anticipe ce qui va arriver avec ces moyens et leur présence réelle, je pilote, je maîtrise ce qui se passe. Et si le pilotage ne va pas bien, c'est-à-dire que ça finit par un échec ou un problème, il y a des chaînes de ce qu'on appelle la réactivité. Je sais réagir. J'ai des procédures de réactivité, j'appelle un ami, etc. En général, un anesthésiste réanimateur ou n'importe qui. Et ces notions-là, elles sont peu présentes, et c'est surtout la partie gauche. Piloter et réagir, vous savez faire. On le voit à chaque crise. Les soignants sont des gens qui savent réagir en situation d'urgence. Ils savent s'organiser. Je sais pas, pour les greffes, il y a des lignes d'astreinte. Tout ça est protocolisé, vous savez faire. Par contre, le champ de la planification, c'est un vaste désert non exploité à l'hôpital. Et jusqu'à présent, c'était pas très très grave, enfin, jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, parce qu'il y avait de la marge. En fait, tout se passait là. C'est-à-dire qu'on planifiait pas, mais c'est pas grave, parce que le jour J, on arrivait à gérer. On arrivait à gérer parce qu'on avait de la marge. Dans une usine, on dirait qu'on avait du stock. Et Gilles Bontemps a parlé ce matin du virage ambulatoire, qui est un phénomène, on va dire, global. RAC, maîtrise de la DMS, J0, chirurgie ambulatoire, tout ça procède d'un même phénomène qui est qu'on comprime le temps. Et le temps à l'hôpital, c'est du stock. Donc en fait, on a tendu les flux. On parle de ça en usine, parfois on tend les flux. Et quand on tend les flux, ça révèle des problèmes. Dans les usines, on tend les flux, c'est-à-dire qu'on enlève les stocks intermédiaires pour voir où sont les problèmes. Ils ont toujours été là, mais au moment où on enlève la marge, ils se révèlent. Et ben, ils se sont révélés à l'hôpital. Et je pense parce qu'il manque beaucoup de choses dans cette brique-là, à gauche, et que plus on comprime, plus ça se révèle. Et en plus, vient s'ajouter une pénurie RH par-dessus, etc., qui fait que emboliser. Donc en fait, le système de Bannett et tout ce dont on a parlé, c'est un héritage culturel. J'ai bien aimé la notion d'héritage culturel, des lits, etc. C'est-à-dire qu'on veut faire ces nouvelles organisations comme on faisait les anciennes, avec le même logiciel, avec le même paradigme. Et le problème n'est pas informatique, il est méthodologique avant tout. Quelques symptômes. Fait rire la remarque ce matin de Renato. On le voit encore dans la sémantique, ce manque de... Enfin, pour moi, les méthodes hospitalières, c'est un impensé. Et surtout la planification, c'est un impensé. C'est quelque chose qu'on ne conceptualise pas, sur lequel on ne travaille pas. Quand j'étais membre de CODIR, j'étais en général la seule ingénieure, c'était un peu... Ah, comme tu es ingénieure, tu ne peux pas m'optimiser le truc, là. Optimiser quoi ? Selon quels critères ? Ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut rien dire. Alors, souvent, je répondais ça, si, bien sûr, moi, je suis ingénieur. Attendez, je vais vous optimiser le truc, mais... Quel est le critère que vous les choisissez ? Ah, mes collègues directeurs, attends, on va y réfléchir, on va revenir vers toi un peu plus tard. Pareil, vous présentez un projet, vous montrez que ça marche mieux, approche, processus, tout ça, valeur ajoutée, puis à la fin, mon directeur dit, ah, c'est très bien, mais est-ce que c'est efficient ? Efficient. Je ne sais pas quel est le sens de ce mot. Je ne connais pas. Alors, au début, je disais, je ne comprends pas ce que c'est. Bon, enfin, Virginie, t'es ingénieure quand même. Un peu con-con, quoi, la demoiselle. Alors maintenant, j'ai une réponse un peu plus subtile. Vous, l'efficience, c'est quelle unité vous utilisez ? C'est quoi l'unité de l'efficience ? Je ne sais pas trop. Il y en a plein d'autres. Le taux de rotation, c'est quoi l'unité ? En gestion des stocks, c'est une durée moins 1. C'est l'inverse d'une durée. Pas trop. Alors, mon préféré. Mais à la fin, votre HDJ, il aura combien de places ? Celui-là, on l'adore. Il est magnifique. Ça n'a aucun sens. Mais tout ça est révélateur du fait que ce domaine-là, je pense, n'est pas investigué, n'est pas pensé, n'est pas concrétisé. Alors, comment on fait ? C'est la maligne, là. C'est quoi la meilleure méthode à l'hôpital ? Souvent, on dit ça. Bah, OK, c'est quoi la bonne méthode de planification ? Parce qu'il existe plein de méthodes en génie industriel. Ben, ça dépend. Pas une bonne réponse, pas une réponse de Normande. En fait, une méthode d'ingénierie est bonne pour certains types de flux et pas pour d'autres. C'est-à-dire qu'elles ont tous des avantages et des inconvénients, et donc en fonction de la typologie de flux que vous traitez, elles vont être bonnes ou pas. Et dans un hôpital, on va concentrer une hétérogénéité de flux au même endroit. Et donc il n'y en a pas une qui est bonne pour tout. Ça, c'est pas possible. Donc, par exemple, est-ce que vous êtes en implantation fonctionnelle ou en ligne de production, vous n'allez pas avoir les mêmes méthodes de pilotage et de planification. Si vos ressources sont dédiées ou si vous devez les allouer à l'avance parce qu'elles sont partagées, vous n'allez pas piocher dans les mêmes méthodes. Donc souvent, je leur présente comme ça, finalement, le critère le plus discriminant des types de flux, c'est est-ce que le flux est répétable, prévisible, connu, ou est-ce qu'il est aléatoire? Et en fonction de ça, on peut à peu près cartographier les différents types de flux patients à l'hôpital, depuis les grandes urgences jusqu'à du très programmé, comme vous dites, donc les consultations, les HDJ. Et en fait, on ne va pas du tout utiliser la même méthode à droite qu'à gauche. Ça n'a pas de sens. Donc, même dupliquer, dire « Ah, ça, ça a bien marché sur le bloc, on va faire la même chose en HDJ », ça n'a pas de sens. Si on fait une approche très vulgarisée, parmi toutes les méthodes d'ingénierie, globalement, on va les répartir comme ça. Tout ce qui est à gauche est répétable. Ce qui est répétable et planifiable, on n'a pas le droit de ne pas planifier. MRP2, c'est ce qu'on appelle la planification intégrée, donc les macro-planning, etc., dans l'industrie, et l'ordonnancement, on fait partie. Par contre, à droite, ça ne sert à rien. Même pour un bloc, je ne vais pas m'amuser à ordonnancer mes interventions chaque jour. En fait, c'est un effort inutile, parce que ça va être balayé par plein d'autres critères. Le patient BMR, on va le mettre à la fin pour ne pas perdre du temps. Ah oui, mais celui-là, il arrive de Luxa, alors on ne va pas le mettre en premier, etc. Donc, notre ordonnancement qu'on aurait fait, en fait, il va sauter. Donc, on ne va pas mettre l'effort là-dessus. Donc, il faut pouvoir mettre le gradient en fonction des typologies de flux. Mais globalement, ce qui va très, très bien marcher, pour tout ce qui est ambulatoire de médecine, c'est les approches de planification par ordonnancement. Et la planification, ça a des données d'entrée. C'est-à-dire la planification, c'est un calcul, c'est une moulinette. Et si vous ne l'alimentez pas, il ne sort rien. Et les données d'entrée, c'est l'activité, mais c'est les gammes et les nomenclatures dans l'industrie. Autrement dit, les parcours patients. On parlait tout à l'heure de la première étape de la démarche, c'est de cartographier les parcours. Oui, parce que pas de gamme, pas de planif. Point. Il faut un matériel sur lequel planifier. Alors après, on peut faire des parcours type, des parcours enveloppe. La planification n'a pas besoin d'être au millimètre. Elle n'a pas besoin d'être ce qu'on appelle détaillée. Elle peut être macro, elle peut faire des approximations, mais pour être, il lui faut un support. Et le support, c'est le parcours patient. Pas de parcours, pas de planif. Pas possible. Donc, ça, ces points-là, c'est important parce que dans tous les HDJ où on va, j'entends souvent les mêmes injonctions impossibles qui sont données à la programmation. J'en ai résumé quelques-unes là. La première, ah non, mais nous, chaque patient est différent, on ne peut pas faire des parcours types. Bah alors, on ne peut pas faire de l'HDJ hyper, avec beaucoup d'activité et hyper optimisé. On fait du truc d'orfèvre et puis on prend 3 patients par jour. C'est pas, en fait, c'est mathématiquement impossible, quoi. C'est une équation impossible. Donc ça, si on ne lève pas cette injonction-là, on peut essayer tous les outils informatiques de la Terre, on peut essayer toutes les approches, ça ne marchera pas. Il y en a une autre, c'est... Pour vos HDJ, bah, vous trouvez un trou dans mon planning de consulte. Puis vous vous débrouillez, vous avez bien du personnel de programmation, il peut faire ça. Mais le trou, il n'est jamais à la même heure. Donc ça, c'est la notion d'allocation de ressources. Il n'y a aucune usine qui arrive à produire avec des rendements efficaces si les opérateurs disent oh, « Vous me planifiez les tâches en fonction de mon emploi du temps perso. » Puis l'emploi du temps perso, il peut changer la veille. Ça ne marche pas, ça. C'est le seul moyen de pouvoir organiser une séquence d'activité, c'est de connaître l'allocation des ressources. Donc la recherche de créneaux dédiés, alors ça peut être, je ne sais plus qui évoquait ça, ça peut être 2 heures dans la journée. Mais en fait, ce qui compte, c'est que ce soit toujours de 10h à midi. Et pas un coup à 9h, un coup à 14h, un coup à 11h. Si c'est toujours à ce moment-là, bon bah c'est un créneau dédié, c'est-à-dire que la ressource sont là, on peut faire quelque chose. On ne peut pas planifier s'il n'y a pas d'allocation de ressources. Donc on continuera à lutter. Pardon. Ah oui, envoyez-moi la demande d'IRM par fax. Ça, c'est toujours la logique de... Et Théo l'a très très bien montré, donc je ne vais pas insister, mais tant qu'on demande à traiter les patients un par un, parce que pour chaque programmation de patient, il faut demander l'autorisation... Finalement, quand on dit qu'il faut envoyer un fax à l'IRM, c'est qu'il faut demander l'autorisation à l'IRM de faire un HDJ. C'est ça qu'il y a derrière. Et ben, en fait, on ne peut pas être efficient. Et je pense que la démonstration a été très très bien faite. Il n'est pas possible de trouver quelque chose. J'ai utilisé efficient, mon Dieu. Pendez-moi. On peut pas. Vous m'avez contaminé. C'est de votre faute. En plus, je suis dans une école d'ingénieurs et je viens de dire efficient. Mon Dieu. Et on ne peut pas être performant tant qu'on a cette injonction-là. On est performant si on connaît tous les patients à l'avance et qu'on trouve le meilleur Tetris. Donc tant qu'on fait un par un, impossible. Et ça aussi, non mais c'est pas possible de faire une journée type, il y a des fois on a 40 patients, c'est pour, plutôt un onco, ces volumes-là, le lendemain on en a 30 et c'est normal. Non. C'est l'HTJ, c'est une activité répétable, prévisible, on peut la lisser. La base d'absolument toutes les méthodes de génie industriel, c'est le lissage d'activité. Tant que vous avez des à-coups, ça s'appelle l'effet coup de fouet, le bullwhip effect, tant que vous avez des à-coups en entrée, c'est le bordel derrière. C'est dans l'aéronautique, c'est comme ça, c'est une industrie par exemple, qui est structurellement toujours en effet coup de fouet. Donc en général, tous les 3 à 5 ans, ils embauchent et tous les 3 à 5 ans, ils licencient. C'est structurel. C'est parce que c'est l'à-coup au démarrage. Donc si votre activité, elle a comme ça des variations qui sont artificielles, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de patients d'HDG qui sont à un jour près, si on regarde réellement les choses, vous générez derrière une amplification sur absolument toutes vos ressources qui fait que c'est un chaos complet. Et donc oui, il faut essayer de se ramener à des journées lissées le plus possible si on veut y arriver. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.